Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Allô Internet, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui a gravement affecté le Québec en entier. C'est une histoire qui nous a vraiment tous touchés et nous a vraiment rendus assez paranoïaques, je devrais dire, comme pour la France, la petite Estelle, le petit Grégory, la petite Maëlys. Eh bien cette histoire ressemble à beaucoup d'histoires d'enfants disparus malheureusement. Restez là. Écoutez le podcast Over and Out. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition et du meurtre de la petite Jolaine Riendeau. Nous sommes le 12 avril 1999 dans la pointe Saint-Charles, qui est un vieux quartier de Montréal. La petite Jolaine a 10 ans et elle prépare le souper avec son père, René Riendeau. La mère de Jolaine est au travail, donc c'est le père de Jolaine qui s'occupe de préparer à souper. Il dit à sa petite Jolaine, « Aide-moi à éplucher les patates ou peler les pommes de terre pour les Français et je vais donner 2$. » Donc, la petite Jolaine de 10 ans aide son père, elle fait son travail et ensuite son père lui donne son argent qui lui est dû. Jolaine court au dépanneur du coin et bon, ben c'est ce qu'on faisait tous quand on était jeunes, on recevait 2-3$ et on allait au dépanneur. Pour nous les dépanneurs c'est ça, c'est des épiceries où ils vendent des bonbons, et des chips, ils vendent toutes sortes de choses. Donc c'est ce qu'on faisait quand on était jeunes, on courait au dépanneur, on allait s'acheter genre un Mr. Freeze, une Slush, des gommes bazooka par exemple. Donc, c'est ce que Jolaine a fait, comme n'importe quel enfant de son âge. Il est 16h30 quand Jolaine quitte sa maison en patin à roulettes et se rend au dépanneur pour s'acheter un sac de chips. On voit Jolaine devant le dépanneur en train de manger ses chips. Quand Dolores, la mère de Jolaine, retourne à la maison, elle voit que Jolaine n'est pas encore rentrée. Elle ne s'inquiète pas vraiment parce qu'elle sait que sa fille Jolaine est très indépendante. Ça arrivait souvent qu'elle partait puis elle revenait un peu plus tard. Jolaine était très mature pour son âge. Souvent, elle prenait l'autobus toute seule. Elle était super sociable. Elle aimait parler avec tout le monde. Tous les voisins du coin la connaissaient. Mais rendue à 1h du matin, elle est partie à 4h30. À 1h du matin, quand Jolaine n'est pas rentrée, sa mère décide d'appeler la police.
Si je vous ramène au 12 avril 1999, vous étiez avec votre famille, regardez l'émission de télévision. À un moment donné, vous avez constaté qu'il était quand même assez tard. Pas de nouvelles de Jolaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Tant que j'ai vu à minuit que Jolaine n'était pas rentrée, il m'a passé un bouillonnement des orteils jusqu'aux cheveux. J'ai attendu jusqu'à minuit à la dernière autobus, la 107, c'est la rue Wellington. J'ai attendu que les métros ferment. Puis quand j'ai appelé les policiers, là, ils sont arrivés ici vers 2 heures du matin, si ma mémoire est bonne.
La police arrive tout de suite sur les lieux, fouille la maison pour voir si Jolaine n'aurait pas laissé un indice ou si elle n'était pas tout simplement cachée. Et on s'entend, je veux juste vous rappeler que dans les cas de disparition d'enfants, le temps est extrêmement précieux. OK, dans les premières heures, il y a encore des chances qu'on retrouve l'enfant. Mais là, ça fait plus de 7 heures que Jolaine a disparu quand sa mère décide d'appeler la police. Fait qu'on a perdu beaucoup de temps qui est extrêmement important.
Ils ont commencé à fouiller la maison. J'avais beau leur dire, non, c'est pas normal. Ma fille, elle serait pas partie. On n'attendra pas 24 heures. C'est pas vrai. Elle serait pas partie. Puis ça a déclenché Lolo.
Très rapidement, lorsque les policiers patrouilleurs se rendent sur les lieux d'une disparition d'un enfant de bas âge, hein, Jolene avait 10 ans, donc on va établir rapidement un périmètre rapproché. On va commencer les fouilles à partir de l'endroit, le dernier endroit où la personne a été vue.
La police de la CUM a lancé une vaste opération de recherche afin de retrouver une fillette de 10 ans portée et disparue depuis plus de 24 heures dans le quartier Pointe-Saint-Charles.
Il y a une fouille des abords du canal Saint-Patrick. Une fouille également là, de tous les immeubles ici dans le secteur et des parents voisins et amis.
On fouille les alentours, tout le quartier, mais rien. Et là, les policiers se rendent compte que, en effet, Jolene a peut-être bel et bien été enlevée. Les policiers ont fait une recherche rapide dans le coin, dans le secteur, pour voir s'il n'y avait pas des prédateurs sexuels qui habitaient là. Donc, des hommes avec un casier judiciaire ou des démêlés avec la justice concernant les abus sexuels, la pédophilie et tout. Seulement dans le quartier où Jolene habitait, on a retrouvé une liste de 175 hommes qui avaient eu des démêlés avec la justice en rapport à des gestes à caractère sexuel. C'est énorme! 175 personnes dans un secteur, ça fait vraiment peur. Les 175 hommes en question ont été rencontrés. Plusieurs avaient des alibis très solides, d'autres en avaient pas non plus, mais en même temps, sans corps, sans preuves, sans indices, tu peux pas rien faire, malheureusement.
On nous disait que dans le secteur, écoutez, vous regardez, il y a eu des agressions sexuelles dans le secteur, puis je pense que si vous continuez à fouiller de ce côté-là, ça pourrait être très bon pour le cas de Jolene, puis c'est ça qu'on va faire, puis nous donner quelques informations qu'on a vérifiées, qu'on a rencontrées à nouveau. Pour la famille, on le disait, mais on n'avait pas d'accusation, ça prend de la preuve pour accuser.
Ça, c'est vraiment triste. C'est dans les années 99-2000. On peut vraiment juger les parents tant qu'on veut dans cette histoire-là, ça va pas ramener la petite Jolene. Mais effectivement, plusieurs personnes dans le secteur n'étaient pas surpris par la disparition de Jolene. Une amie de Jolene qui avait 12 ans disait que Jolene et elle suivaient des cours de natation ensemble. La petite de 12 ans avait un couvre-feu de 8h30-9h, ce qui est quand même raisonnable, genre quand il fait noir, tu dois rentrer à la maison. Moi, je me rappelle, je jouais dans la rue avec mes amis, fait que dès qu'il commençait à faire noir, ma mère m'invitait à entrer. En même temps, faut pas être paranoïaque puis garder tous nos enfants dans la maison en tout temps. Mais 8h30-9h, c'est quand même tard si on considère l'hiver au Canada qu'à 4h30-5h, il fait noir. Donc, ouais, ça doit dépendre. L'été, 8h30-9h, c'est correct, mais l'hiver, en tout cas. Bref. Fait que ça, c'est la petite fille de 12 ans qui avait le couvre-feu à 8h30-9h. Jolene, à 10 ans, donc 2 ans plus jeune, n'avait pas de couvre-feu. Elle pouvait rentrer à 8h, 9h, 10h, 11h parfois. Pour une petite fille de 10 ans, être à 11h le soir dehors toute seule, c'est pas très sécuritaire.
C'est rencontre.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Là où c'est après l'école, ça se terminait vers quelle heure pour vous?
Moi, l'heure de rentrée à ma mère était toujours de 8h30. Je pouvais rester comme. Des fois, c'était 8h. On pouvait rester un petit peu en avant de la porte, mais je devais demeurer en avant de chez moi. Toujours.
Puis est-ce que Jolene rentrait chez elle vers 8h15, 8h30 ou si elle partait puis n'avait pas de nouvelles?
Bien, par la suite, moi, elle me disait toujours qu'elle ne rentrait pas tout de suite, qu'elle allait aller un petit peu retourner sûrement ici au centre, cette affaire-là. Par la suite, je sais pas, parce que moi, j'étais rentrée chez nous.
Les parents doivent s'en vouloir assez, qui n'ont pas besoin de lire les mauvais commentaires sur leur sens du jugement à cette époque. C'était des années 90. Bon, la mentalité est très différente aujourd'hui, même si ça fait juste 20 ans, c'est vraiment différent. Mais Jolaine était reconnue comme étant une petite fille qui traînait souvent seule. Et les gens du secteur, justement, étaient surpris de voir une aussi jeune fille être seule dans la rue à n'importe quelle heure de la journée. Même qu'il y a des serveuses qui ont dit que parfois Jolaine n'avait pas mangé de la journée, elle allait au restaurant, puis c'était les serveuses qui lui donnaient à manger parce que la petite avait pas d'argent puis avait pas mangé de la journée, fait qu'il la prenait en pitié et lui donnait l'argent. Mais encore là, je connais pas la situation des parents, la situation financière ni rien, donc j'aime mieux m'abstenir de tout jugement. Mais là, c'est là qu'on se rend compte que peu importe comment tu gardes ton enfant, un enlèvement est si vite arrivé. Jolaine est allée au dépanneur du coin à 4h30 de l'après-midi, en plein jour, puis elle s'est quand même fait enlever. Faut quand même prendre en compte que ses parents ont juste appelé la police à 1h du matin, ce qui est très tard, sans avoir de nouvelles de son enfant, mais bon. Dès qu'on a su que Jolaine s'était fait enlever, tout le Québec en entier s'est mis à s'intéresser au cas de la petite Jolaine. Tout le monde connaissait son histoire. Les policiers ont reçu plus de 1300 informations et ils ont inspecté une par une. Mais là, une journée, les policiers reçoivent un appel. Un homme disait avoir tué la petite Jolaine et il l'avait laissée sur l'île Sainte-Hélène à 6 km de la maison de Jolaine. Et là, on se met à inspecter l'île Sainte-Hélène, justement, à interroger les gens et tout. Et là, on trouve un homme du nom de Mario Bastien. C'était un homme extrêmement dérangé qui plus tard sera accusé du meurtre du petit Alexandre Livernoche. Malheureusement, après avoir interrogé ce fameux Mario Bastien, on s'est rendu compte qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Jolaine Riendo. Puis là, c'est vraiment bizarre toute l'histoire avec Mario Bastien. Comme quand il a été arrêté pour avoir tué Alexandre Livernoche, il a avoué avoir tué Jolaine Riendo également. Mais là, il a passé le détecteur de mensonges. Et ça l'a prouvé qu'il mentait, qu'il l'avait pas du tout tué. Donc, il faisait à croire que c'était lui l'assassin, je pense que pour se moquer des policiers. Mais encore là, tout ça, ça reste une zone grise. Mais on pense qu'il l'a pas fait, qu'il fait juste rire des gens en disant « Oui, c'est moi qui l'ai fait » pour se donner de la notoriété qu'il y a pas. Ensuite, les policiers ont reçu la photo de des Québécois qui étaient en Floride en vacances. Et c'était la photo d'une petite fille qui était identique à Jolaine Riendo. Les policiers se sont rendus en Floride, mais malheureusement, ce n'était pas elle. En 2005, il y a un prisonnier qui a avoué à un autre prisonnier avoir tué la petite Jolaine Riendo et avoir balancé son corps dans le canal Lachine. Donc, le 5 mai 2004, les policiers ont vidé le canal Lachine de son eau. C'est quelque chose là d'extrême. Il n'y a jamais rien de tel qui s'était fait auparavant et il n'y a rien qui a été retrouvé dans le canal. C'est vraiment fou. C'est comme vider la scène de son eau puis tu te rends compte à la fin qu'il n'y a rien. C'est incroyable. Plus tard, il y a une récompense de 10 000 $ qui a été offerte pour quelconque information aidant à retrouver Jolaine. Le 9 septembre 2010, après 12 ans de recherche, les policiers annoncent enfin avoir retrouvé le corps de la petite Jolaine Riendo, qui était en dessous de l'autoroute 15, en dessous du pont menant à l'île des Sœurs, pour les Québécois, ceux qui connaissent l'endroit.
Et puis, un terrible mystère est en partie résolu dans une affaire dont on a beaucoup parlé. Le corps de la petite Jolaine Riendo, disparue il y a 12 ans à Montréal, a été retrouvé. Mais on ne sait toujours rien du meurtrier, mais la police dit avoir un suspect en vue.
On a refusé de leur dire où le corps de leur fillette a été retrouvé, dans quel état il se trouvait. Comment elle a été tuée et surtout, est-elle morte dans les heures qui ont suivi son enlèvement?
C'est un travailleur en construction qui était dans le coin et qui a vu des restes humains et ça leur a pris un mois avant de confirmer que c'était bel et bien les restes de Jolaine Riendo parce que ça faisait assez longtemps qu'il était là. Et là, on a tout de suite pensé que le coupable était un homme du nom de Robert Laramée, un homme de 47 ans qui avait un lourd passé criminel. Il avait fait plusieurs agressions sexuelles sur des jeunes filles. D'ailleurs, à l'époque où Jolaine est disparue, il habitait pas très loin de Jolaine. Tu sais, Robert Laramée, c'est vraiment le suspect principal. Et c'est lui qu'on pense qui aurait fait ça. D'ailleurs, c'est tellement fou, le 4 juin 2012, alors que Robert Laramée passait en cour, la mère de Jolaine, Dolores, était en cour. Et elle était au palais de justice à ce moment-là. Elle a complètement perdu le contrôle et elle a frappé ce fameux Robert Laramée. Elle est persuadé que c'est lui le coupable, que c'est lui qui a tué sa fille. Puis je comprends vraiment la mère d'avoir fait ça. Tout le monde a comme applaudi son geste, là, même si c'est pas correct, même si c'est contre la loi de faire ça. Genre, toute la colère d'une mère qui vient de perdre son enfant s'est reflétée dans les gestes qu'elle a fait ce jour-là en cours. Et moi aussi, je pense qu'il y a des très bonnes chances que ce soit Robert Laramée le coupable parce que il n'a jamais voulu se soumettre au détecteur de mensonges, puis je pense qu'on peut pas l'obliger. Et il connaissait Jolene Riendeau, il s'était déjà parlé, fait que c'est presque sûr que c'est lui, mais lui, il affirme à 100% qu'il n'y a rien à voir avec la disparition et le meurtre de la petite Jolene. Et le plus fâchant dans toute histoire-là, c'est que Robert Laramée, il est libre à l'heure qu'il est, malgré toutes les accusations portées contre lui d'agression sexuelle sur des femmes et sur des fillettes. Et malgré le fait qu'il y ait un risque de récidive extrêmement élevé, il a même agressé sexuellement ses propres enfants. Fait que c'est un monstre, cet homme-là. Et même Claude Poirier, que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, lui, il est persuadé que c'est lui qui a commis le meurtre.
Est-ce que vous pouvez me jurer que vous avez rien à faire, ni de près, ni de loin, avec la disparition et le meurtre de Jolene Riendeau?
Ça, je peux jurer, j'ai rien à voir avec le meurtre de Jolene Riendeau.
Alors, si y a des développements, si je vous trouve quelqu'un de privé, je peux communiquer avec votre avocat et vous accepteriez de passer le détecteur de mensonges.
Oui, mais c'est comme je l'ai déjà dit, je suis en contact avec Maître. On s'en parle de ça.
Avez-vous autre chose à rajouter, monsieur?
Non.
En 2012, alors qu'il est incarcéré pour une autre agression, cet homme demeure le suspect numéro un dans la disparition de Jolene Riendeau. Conseillé par son avocat, il a toujours décliné l'offre de passer le test du détecteur de mensonges.
C'est un homme vraiment malsain. Toutes ces années-là, tout le monde pense que c'est lui, mais il n'y a aucune manière de l'accuser parce qu'on n'a pas, je pense, d'ADN. Je pense que la découverte du corps, c'est difficile de relever des ADN. On n'a pas de manière de l'arrêter, malheureusement. Ça, c'est l'histoire de la petite Jolene Riendeau. C'est pas une vidéo qui est extrêmement longue, mais c'est vraiment toutes les informations qu'on a à son sujet. J'espère vraiment qu'un jour, justice sera faite et qu'on réussira à trouver le coupable du meurtre de la petite Jolene. Mais c'est pas impossible, je veux dire, il y a un mois, on a retrouvé les parents de la fameuse petite martyre de l'autoroute A10. Après 30 ans sans nouvelles, après 30 ans sans aucune piste, on a réussi à les trouver. Mais c'est encore possible qu'on retrouve le meurtrier de Jolene. Donc, toutes mes pensées sont avec sa famille. Je peux affirmer que les Charltonais sont de tout cœur avec les Riendeaux. Sinon, on se revoit mercredi pour un Chit Charlton. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Pourquoi c'est toi qui finis toujours dans ses bras à supplier de pardonner des gestes que t'as jamais posés? Je sais qu'un jour tu lui pardonneras ton tour d'avoir cru que c'était.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.